La guerre des masques. Luc Lavoie, raconte-nous. D'abord, bonjour, Luc.
Salut, Bernard.
Raconte-nous ce qui serait arrivé à une cargaison de masques destinée au Canada, en partance de la Chine.
Écoute, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions de ce qui est arrivé précisément, mais tu sais, depuis le début de la semaine, là, il est rentré au Canada 11 millions de masques, en plus des 500 000 donnés par Alibaba, puis des 700 000 de la Réserve fédérale. Puis là, ben, il faut les prendre quelque part. Et les Américains, évidemment, c'est eux autres qui sont devenus l'épicentre de la tragédie. Ils en ont besoin, puis quand, pour reprendre l'expression que j'ai vue dans un journal tout à l'heure, ils passent la gratte partout où ils peuvent. Alors, les importateurs doivent payer à l'avance, hein, par des virements bancaires internationaux, parce que les masques viennent presque tous de Chine ou des pays limitrophes. Alors, il faut que tu fasses ton paiement d'avance, il faut que les contrats de transport soient payés, tout est réglé. Puis là, il faut avoir des gens de confiance sur place. Une chose que je savais pas, Bernard, c'est que dans l'économie chinoise, il y a des intermédiaires par-dessus des intermédiaires, parce que bon, c'est un pays qui exporte massivement. Alors, il faut que tu trouves des intermédiaires qui te coûtent très cher et qui vont réussir à sécuriser tes commandes, par exemple. Tu vois, à l'heure actuelle, par la pure loi de l'offre et la demande, normalement, un masque N95, ça se détaille à peu près 3 $. Là, c'est rendu autour de 7,50 $.
À peu près 3 $? Moi, j'ai lu 3 sous.
Non, dollars.
3 $. Ah oui, ah. Oui, tu as raison.
Les N95.
Tu as raison. Oui, les N95. Oui, absolument. Je m'excuse, tu as raison. 3 $. Donc, ça a doublé de prix.
Oui, ça a doublé de prix, puis ça continue. Puis là, les pays occidentaux, nous tous, le Canada, les États-Unis, la France, les autres, l'Italie et l'Espagne, ils veulent en avoir des milliards de masques. Et on les trouve principalement en Asie. Alors, tu sais, tout ça s'est déclenché, où nous a été révélé la guerre des masques quand la France avait acheté une commande en Chine. Et puis, il est arrivé un acquéreur américain. Le gouvernement a démenti qu'il travaillait pour eux. Mais un acquéreur américain, il a payé 3 fois le prix en cash sur le tarmac d'un aéroport chinois. Et là, la compétition est devenue féroce. C'est pas possible. Il faut que les ambassades des différents pays, dont le nôtre, envoient du personnel à des usines, puis qu'ils attendent, puis qu'ils tiennent la porte pour être sûr que c'est eux autres qui vont passer. Et tu vois, presque dans le même registre, le grand service secret israélien, le Mossad, qui a ramené une opération à l'étranger, une opération clandestine pour s'approvisionner en kits de détection. Alors, tout ça, ça donne lieu à quoi? À du favoritisme, des malversations, de la surfacturation. Bon, les intermédiaires qui se multiplient. Il y en a une des anecdotes que je trouve délicieuse, c'est l'ancien premier ministre slovaque Peter Pellegrini. Il avait réservé des millions de masques en Ukraine, parce qu'il en fabrique là aussi, et il devait être payé comptant. Fait qu'il y avait une mallette avec lui qui contenait 1,2 million d'euros. Un avion spécial qui était sur la piste, un intermédiaire allemand est arrivé, il a surenchéri, puis a acheté la marchandise. Et là, évidemment, ce qui nous fait particulièrement mal ici au Canada, c'est que 3M, la compagnie bien connue, qui fabrique des masques N95, a reçu un ordre présidentiel de cesser d'en exporter au Canada et en Amérique latine. Le président des États-Unis, en vertu de la loi des
sur
approvisionnements
la défense. Sur, la défense, sur la défense, ouais.
Peut émettre ce genre d'ordre. Alors, il leur interdit d'en exporter 3M au Canada puis en Amérique latine. Et là, 3M a émis un communiqué pour confirmer l'affaire. Mais tu vois qu'ils ne sont pas très contents parce qu'ils disent, on parle ici de conséquences humanitaires très importantes. Puis ils disent, nous sommes un fournisseur essentiel pour le Canada. Alors, à l'heure actuelle, ils disent, on étudie l'offre présidentielle. Alors, tu prends une compagnie au Québec parce qu'il y a des agents américains. Qui sont-ils? Des intermédiaires qui se tournent et le revendent? Ils sont venus ici au Québec. Et il y a une compagnie qui s'appelle Pantera Dental et avec une filiale qui s'appelle Bodycad. Eux autres, ils se sont mis à produire des visières puis des valves pour les respirateurs grâce à des imprimantes 3D. Bien là, monsieur, ils ont vendu au complet leur production de la semaine. Puis la production des 2 prochaines semaines est déjà payée d'avance, puis pas par le Canada.
Luc,
alors, oui, Bernard.
Il faut s'arrêter, mais on va en reparler quand tu vas nous faire ton tour du monde vers 14 heures. Vers 14 heures, on va continuer ce récit et il y aura d'autres développements d'ici ce temps-là. Il faut que je t'arrête parce qu'on nous a confirmé qu'on aurait le ministre François-Philippe Champagne un peu plus tard dans cette première heure qui va venir nous dire quelles sont les mesures que le gouvernement du Canada va prendre pour sécuriser notre approvisionnement en masques. On se reparle tout à l'heure?
À tantôt.
À tantôt. Luc, vous en a parlé. En Europe aussi, c'est toute une bataille pour obtenir des masques. Fabrice de Pierrebourg est journaliste d'enquête. Bonjour, Fabrice.
Salut, Bernard.
Oui, c'est ça, parce que dans les faits, les premières histoires de vol de masques sur le tarmac, c'est des histoires qui impliquent des pays européens.
Oui, c'est ça. Puis, Luc en a parlé brièvement, mais l'histoire la plus rocambolesque, c'est celle du Mossad, donc le puissant service de renseignement israélien, dont un des responsables s'est vanté, il y a quelques jours à la télévision israélienne, d'avoir monté des opérations pour obtenir de toutes les façons possibles un stock de masques. Ils en ont récupéré au moins 10 millions, mais le gouvernement israélien a monté comme une genre de cellule, on va dire de cellule stratégique, et ils sont chargés d'obtenir au plus vite des médicaments, des masques, des respirateurs. Et ce haut responsable ne cachait pas Bernard entre les lignes. Il dit, j'ai supervisé de nombreuses opérations dans ma vie, mais je n'ai jamais eu à faire une opération complexe. Mais nous sommes quand même spécialistes des missions d'interception. Et il laisse sous-entendre qu'ils utilisent des relations spéciales pour gagner la bataille. Et il dit, peut-être faire ce que le monde entier fait, c'est-à-dire mettre la main sur les stocks commandés par d'autres. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une loi de la jungle et que pour obtenir ces masques, tous les coups vont être permis. Et le Canada, s'il veut obtenir des masques, va être obligé, en attendant d'être autosuffisant, de jouer cette game-là, même si ce n'est pas très moral. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu, à mon avis, je peux peut-être me tromper, de politique intérieure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gouvernements en Occident où on scrute les stocks de masques. Est-ce qu'il y en a assez pour la population ou pas? Et par exemple, en France, où le gouvernement est accusé d'avoir pas constitué de stocks suffisants, c'est devenu quasiment une cargaison stratégique. Et il y a quelques jours, il y a un avion gros porteur russe qui est arrivé sur le tarmac d'un aéroport près de Paris. Et ben cette cargaison de masques venue de Chine, et je ne sais pas si vous l'avez vu à la télévision.
Non, je l'ai pas vu.
A été sécurisé par une centaine de gendarmes des forces puissamment armées d'armes lourdes, un drone. Bon, il y avait peut-être un jeu de communication là-dedans, mais après, les camions étaient escortés, toujours par ces mêmes militaires, dans des entrepôts gardés par des militaires. Et un des responsables français disait « Cette cargaison vaut de l'or ».
Wow.
Alors, on en est rendu là, quoi, parce que c'est sûr que c'est les premiers qui vont mettre la main sur tout ce matériel-là. Puis, le premier ministre François Legault donnait une petite idée du nombre de masques dont on avait besoin, dont on aurait besoin. Mm. C'est faramineux, mais il n'y a pas seulement les masques. Il y a les respirateurs, il y a aussi les médicaments. Et tout, effectivement, tous les jeux vont être permis, tous les moyens vont... Hein, la fin va justifier les moyens dans cette guerre mondiale du masque.
Les Français ont accusé très explicitement les Américains, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Il y a eu une histoire qui a été démentie, justement, d'une région française qui serait fait vraiment filer sous le nez une cargaison de masques par des émissaires américains qui étaient venus avec du cash sur le tarmac, carrément. Bon, ce responsable politique français n'a pas voulu pointer du doigt les Américains directement, mais on sait que c'est ça qui se passe. C'est incroyable. Ouais, je sais que c'est pas moral. Je sais que c'est pas moral, mais chaque gouvernement va lutter en ce moment pour obtenir ce qui est essentiel pour lutter contre cette pandémie et protéger non seulement son personnel soignant, mais sa population. Et en plus, la pression est de plus en plus grande. On voit qu'il y a de plus en plus de pays ou de villes qui recommandent aux gens de porter des masques. Donc, le besoin va être immense, quoi.
En tout cas, Fabrice, as-tu déjà vu une affaire de même, toi? Un avion sur un tarmac, des valises d'argent comptant qui circulent, puis finalement l'avion qui était destiné à tel pays. Dans le fond, je ne sais pas qui se fait acheter. Est-ce que c'est le pilote qui se fait acheter ou c'est un des intermédiaires qui se font acheter? Mais bref, l'avion part pour un autre pays parce qu'il y a un autre pays qui a fait de la surenchère.
Ben Bernard, je te dirais qu'à partir du moment où des services de renseignement offensifs se mettent dans la bataille, et pour l'instant Israël, c'est le seul qui l'avoue, ça donne bien une petite idée sur quel terrain on joue, là.
Absolument.
On n'est plus dans l'offre et la demande classique, là. Ça va être musclé. Et le Canada, va être obligé de jouer sur ce terrain musclé.
Voilà.
Plutôt que de regarder ça d'une façon plus angélique, mais en attendant qu'on puisse nous-mêmes, grâce à nos industries ici, s'autosuffire. Hein.
Fabrice de Pierrebourg, journaliste d'enquête spécialisé dans les dossiers de sécurité. Merci beaucoup, Fabrice.
De rien, Bernard.
On va réécouter François Legault hier en point de presse.
C'est vrai que ça joue dur dans certains pays, mais on joue, nous aussi, les règles du jeu. Ça veut dire que des fois, il faut arriver avec de l'argent comptant, il faut avoir des policiers, des gens qui suivent tout le transport. Mais inquiétez-vous pas, on fait tout ce qui est possible de faire pour que les commandes qu'on passe se rendent jusque dans nos hôpitaux ici.
Alors, pour essayer de comprendre la dynamique en Chine, on va aller rejoindre un ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. Bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Guy Saint-Jacques, est-ce que ça vous surprend, ça? Je veux dire, pour nous autres, là, c'est rocambolesque que tu dis. C'est une histoire de film, sauf que là, c'est la réalité. Et puis, il y a des vies qui sont en jeu parce qu'on a besoin de ces masques-là pour protéger notre personnel de la santé.
Oui. Bien, en fait, comme disait Luc tantôt, en Chine, il y a beaucoup d'intermédiaires, puis... Malheureusement, il y a des gens qui voient qu'ils peuvent faire la passe, là, puis qui décident d'aller vers le plus offrant. Puis malheureusement, c'est ça. Il y a beaucoup de services d'autres pays qui sont prêts à verser des sommes en argent. Puis les gens se laissent séduire. En fait, pour le Canada, ça pose un problème très grave. Puis je suis pas certain que le gouvernement chinois, de son côté, a la capacité pour policer tout ça puis s'assurer que c'est pas la loi de la jungle.
Pourquoi? Parce que c'est des entreprises privées ou des entrepreneurs privés chinois, c'est ça?
Oui, c'est ça. Moi, je pense que ce sont surtout des entrepreneurs privés. Puis bien sûr, d'abord, eux, ils vont vouloir satisfaire leurs propres besoins. Puis de ce côté-là, malgré le fait qu'ils prétendent qu'ils ont réussi à enrayer l'épidémie de leur côté, là, on voit qu'aujourd'hui, ils ont annoncé qu'à Wuhan, là, qu'il y a d'autres mesures qui sont mises en place. Peut-être que ça indique qu'en fait, il y a peut-être une deuxième vague où ils n'ont pas réussi vraiment à contenir l'épidémie. C'est qu'ils vont vouloir penser à eux. Puis, dans tout ça, là, il y a leur propre... Ils essaient de faire effacer le péché originel, de faire oublier au monde qu'en fait, la crise a commencé à Wuhan. Mm. Et puis, ils ont leur diplomatie du masque où eux-mêmes veulent envoyer des stocks à l'étranger. Mais c'est pour ça que dans... Et puis, tous les pays sont désespérés pour avoir des produits. En fait, quand vous allez parler à M. Champagne, vous pourriez lui demander, est-ce que... le Canada fait des démarches au niveau diplomatique pour essayer de garantir qu'il va y avoir un minimum de masques qui vont venir au Canada. Puis j'ai un beau-frère, Armand Garon, hier, qui lui m'a suggéré, il dit, il faudrait dire les masques qui vont être destinés au Canada, imprimés dessus pour utilisation au Canada seulement, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui veut nous les voler, on va pouvoir l'identifier avec la feuille d'érable, puis... Mais je pense qu'il va falloir recourir à des mesures comme ça pour essayer d'avoir le maximum de bonne volonté. Puis dans le cas du Canada, moi je pense, étant donné qu'il y a de la coopération qui est en cours, par exemple actuellement avec l'Institut de recherche clinique de Montréal, où le docteur Chrétien a organisé des essais cliniques pour un médicament, il faudrait dire, écoutez, on fait preuve de bonne volonté à votre égard, on vous a envoyé nous-mêmes de l'équipement, pouvez-vous nous garantir qu'on va avoir un minimum de stock? Puis dans tout ça, la clé, c'est de savoir quelle est la capacité de production de la Chine, combien de masques ils peuvent fabriquer par semaine, et puis leur dire, vous devez, étant donné votre responsabilité dans cette épidémie, il faut que vous organisiez de façon transparente la distribution de masques.
Je pense que
c'est le minimum à demander.
Qu'est-ce qu'un ambassadeur, vous l'avez été, là, qu'est-ce qu'un ambassadeur peut faire dans des circonstances comme celle-là? Est-ce qu'il peut jouer un peu le rôle d'intermédiaire, justement essayer de sécuriser certaines commandes, quitte à être sur place, sur le tarmac, pour s'assurer que l'avion part bien pour le Canada puis pas pour un autre pays?
Bien, je pense que l'ambassadeur, avec son personnel, peut jouer un rôle très important. D'une part, pour faire la liaison avec les autorités gouvernementales, d'autre part, pour faire la liaison avec les producteurs pour essayer de garantir, puis ensuite d'organiser l'envoi pour s'assurer qu'il y a des gens sur place, pour éviter qu'il y a une surenchère, puis que quelqu'un va arriver à la dernière minute, puis va vous voler votre stock sous vos yeux là, en offrant davantage. Avec, je pense que c'est clair qu'à ce stade-ci, l'ambassadeur peut jouer un rôle crucial.
Jusqu'à quel point la corruption joue là-dedans aussi, parce qu'il y en a beaucoup de corruption en Chine.
Ben, malheureusement, c'est ça, vous avez raison. Puis C'est malgré tous les efforts du gouvernement pour essayer de d'enrayer la corruption, il y a plein de cas où on sait que ça continue de se produire. Puis là, ici, surtout pour des compagnies privées qui voient une façon de s'enrichir rapidement, ben ils vont aller vers le plus offrant, puis ils vont dire, écoutez, qu'est-ce que vous avez à vous objecter, c'est la loi... c'est une loi capitaliste, là. C'est,
la loi du marché.
La loi du marché. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on demande au gouvernement chinois d'être beaucoup plus actif de ce côté-là pour gérer tout ça.
Oui, mais ils sont pas très tentés de nous aider. Les Chinois, on connaît la difficulté qu'on a avec les relations, qu'on a avec ces pays-là depuis des mois. Là, c'est vrai qu'on a peut-être gagné quelques bons points, quelques crédits avec l'envoi qu'on leur a fait, mais je sais pas là. Tu sais, s'ils doivent aider un pays, est-ce que ça va être le Canada? T'sais?
Oui, ben c'est pour ça que effectivement on part avec une coupe de prise contre nous, mais moi, je pense que c'est ça. Il faut leur rappeler tout ce qu'on a fait dans le passé pour les aider, entre autres, lors de la crise du SRAS, là, où on avait joué un rôle très important, puis on a formé des médecins, il y a eu beaucoup de collaboration, il y a d'ailleurs encore beaucoup de collaboration entre des universités canadiennes, québécoises et des universités chinoises, puis il faut... faire jouer ça, puis activer aussi tous nos contacts, justement, dans les milieux hospitaliers. Je sais que le docteur Chrétien est très ami avec M. Zhu Chen, qui est l'ancien ministre de la Santé en Chine, qui est maintenant président de la Croix-Rouge chinoise. Et en fait, c'est lui qui a aidé à organiser les essais cliniques qui ont lieu actuellement en Chine là, pour vérifier l'utilisation de ce médicament-là pour le traitement de la COVID. Ça va prendre un effort à plusieurs niveaux. Activer nos contacts, leur demander de nous aider, utiliser leurs propres contacts avec des fournisseurs pour essayer de garantir le maximum de production, puis à nouveau, en espérant que aussi les usines là-bas vont pouvoir augmenter la production parce que là, il y a une pénurie mondiale.
Vous parlez du docteur Chrétien. Si je ne m'abuse, c'est le frère de Jean Chrétien.
Oui,
qui avait, je pense qu'il y a encore des très bons liens avec la Chine. Est-ce qu'un homme comme Jean Chrétien pourrait nous aider? Est-ce qu'on peut faire jouer nos contacts politiques?
Je pense que oui, puis je pense que c'est le moment de faire ça, d'utiliser tous les contacts. C'est vrai que Jean Chrétien est très bien perçu en Chine, qu'il y a encore beaucoup de contacts. Jusqu'à récemment, là, il allait en Chine 3 à 4 fois par année. C'est que je pense que là aussi, il faut voir ça. La famille Desmarais a beaucoup de contacts en Chine. Là aussi, il faut voir est-ce qu'ils ont des contacts avec qui pourraient aider. C'est que c'est ça. Il faut faire le tour d'horizon parce que là, c'est une question d'urgence nationale.
Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. C'est toujours un plaisir, Guy. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Alors, c'est une histoire, évidemment, qu'on va continuer à suivre. Je vous le redis, vers 12h30, on aura le ministre des Affaires étrangères du Canada, François-Philippe Champagne, qui va nous dire ce que le Canada peut faire, doit faire, pour sécuriser nos approvisionnements en masques. On s'en va à la pause. Au retour, notre journaliste Philippe Bonneville va nous faire un peu le portrait là, des toutes dernières informations concernant cette intervention policière là au sein de la communauté hassidique hier soir dans Outremont.